On est les apatrides anonymes, émission du jeudi 14 décembre, dernière de 2023, en direct des studios de Choc à l'UQAM, ou en balado sur choc.ca, où tous les autres épisodes sont en rattrapage, dont le précédent, qui était notre 100e. Je vous invite... on entend des bruits de fête, là, donc je vous invite à aller écouter ça.
Ça fait 2 semaines que je fais le party, là.
Ah, que t'écoutes back-to-back notre épisode,
en boucle, c'est surtout ça. Surtout ton super montage de début d'émission.
Ah, mystère pour ceux qui n'ont pas écouté. Donc, c'est quoi les apatrides? Ben, c'est votre mise à jour bimensuelle sur toutes sortes de facteurs qui influencent les phénomènes migratoires, le vivre ensemble, les injustices liées à la couleur de peau, à l'origine, la langue, la religion, les opinions politiques, les entraves à la liberté de presse. On parle aussi des régions du monde aux prises avec des catastrophes, des conflits armés, des régimes oppressifs. Entre autres, on ratisse assez large. Je m'appelle Simon, je vais être votre animateur pour la prochaine 1h10. Je suis comme toujours accompagné de mes 2 acolytes, Marie-Ève et Mathieu. Allô, allô.
Bonsoir.
Oui, on sent l'enthousiasme ici.
Oui.
C'est la fin de l'année.
Oui.
C'est pour ça.
Les vacances dans une semaine.
Donc, vous aurez... Oui, on a bien hâte. Vous nous présenterez autant du local que de l'international aujourd'hui. Mathieu, tu as un segment d'actualité autochtone. Et en plus, tu vas nous amener au Bangladesh, en Nouvelle-Zélande.
Et voilà. Loin.
Donc, c'est assez varié.
Il y a pas mal d'action, ouais.
Ben, il y en a partout. Donc, il suffit de choisir un point sur le globe et il y a de l'action. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ça. Marie-Ève, de ton côté, Union européenne, Niger.
Oui.
Tout d'abord, on va te retrouver dans 2-3 minutes avec des enjeux d'immigration Québec-Canada.
Bien de chez nous.
Bien de chez nous. Je sais pas quel sujet t'as pigé dans le sac à sujet, mais il y en avait beaucoup à ce niveau-là aussi. Et on aura tout au long de l'émission 4 nouveautés musicales presque toutes locales, DVTR, Crab, Sun and Tire et de la côte ouest des États-Unis, O'Seas. Parlant de côte ouest, bonjour ou bonsoir à nos amis de l'île de Vancouver qui nous écoutent sur les ondes FM de Radio Victoria. Bienvenue aux Apatrides Anonymes. Marie-Ève, on t'écoute dans 30 secondes. Donc, Marie-Ève, tes enjeux immigration Québec-Canada, de quoi s'agit-il exactement?
Bien, c'est que je commence avec encore des chicanes fédérales provinciales,
ben,
là,
tiens,
évidemment.
C'est l'histoire de la Confédération.
En octobre dernier, dans la foulée de son entente avec les États-Unis concernant la fermeture du chemin Roxham, le gouvernement fédéral a lancé un nouveau programme d'immigration humanitaire qui vise à offrir la résidence permanente à 11 000 ressortissants haïtiens, vénézuéliens et colombiens qui ont déjà de la famille au Canada.
Okay.
Mais, bon, ça date déjà, mais là, c'est que quand les lignes directrices du programme ont été officiellement rendues publiques par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté le 17 novembre, ben là, on a appris que le Québec en était exclu. Parce que ben le gouvernement Legault a décidé de ne pas y participer.
Société distincte.
Encore.
Quelle surprise. Et selon Christine Fréchette, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le Québec en fait déjà assez puisque de novembre 2021 à octobre 2023, une bonne part des 118 000 demandeurs d'asile accueillis par le Québec provenait des 3 pays visés par la nouvelle voie humanitaire. Dans le détail, c'est 15 400 personnes qui provenaient d'Haïti, 9 300 de la Colombie et 3 900 du Venezuela.
Okay.
Et juge donc que, les autres provinces peuvent très bien assumer l'accueil des 11 000 ressortissants visés par le nouveau programme.
C'est sûr que c'est faisable, mais je vois pas en quoi on devrait pas faire notre part. Question
aussi,
ceux qui proviennent de Colombie sont des réfugiés vénézuéliens, ça se pourrait peut-être? Ou...
Non, il faut que la personne soit avec son passeport de son pays d'origine.
Citoyen colombien.
Okay. Oui, c'est ça. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, bon, un demandeur d'asile haïtien, colombien, vénézuélien qui s'est établi en Ontario, par exemple, et qui a obtenu la résidence permanente après être passé par le chemin Roxham, va pouvoir bénéficier du programme pour faire venir un enfant, un petit enfant, un conjoint, un grand-parent ou son frère ou sa sœur. Il sera toutefois pas admissible s'il est élu, comme je le disais, domicile au Québec. Et cette inadmissibilité-là touche aussi les Haïtiens, Colombiens, Vénézuéliens arrivés de manière régulière et établie au Québec depuis longtemps. Le ministre a rappelé aussi que les demandeurs d'asile qui ont obtenu leur résidence permanente au Québec peuvent déjà utiliser une autre voie, la réunification familiale, pour faire venir leurs proches. Sauf que c'est seulement les conjoints et les enfants à charge qui sont admissibles, ce qui est beaucoup plus restrictif que la nouvelle voie humanitaire d'Ottawa. Mmh. Et ça, ben, c'est sans compter les délais du programme de regroupement familial au Québec, qui a bondi. Là, on est rendu à 41 mois, là, au début décembre.
C'est fou, hein?
Alors que c'est seulement 12 mois pour le reste du Canada. Et en date du 13 octobre dernier, environ 38 400 dossiers de regroupement familial étaient en attente au Québec.
Je sais pas s'ils vont les déchiqueter comme ils ont déjà fait, là.
Mais... Moi, je pense que oui, ou ils en parleront juste pas, puis ils vont faire, je sais pas.
Pelleter en dessous du tapis, là.
Ouais. Et puis bon, ben on le sait, là, une partie du problème, Mathieu nous en a déjà parlé aussi, vient du fait que le gouvernement du Québec a lui-même fixé un seuil de 10 400 admissions par année dans cette catégorie-là. Donc, le nombre de demandes excède largement le nombre de places disponibles. Finalement, le gouvernement fédéral a annoncé que le programme concerne 11 000 personnes, mais c'est pas tout à fait vrai parce que en réalité, on parle de 3 500 dossiers. Donc, c'est pas vraiment... 11 000 personnes qui vont être touchées par ce...
Ouais.
Bref, là, je passe à un volet un peu plus démographique, si on veut, de l'immigration.
Quelques chiffres.
Avec une autre catégorie dont on a beaucoup parlé dernièrement, c'est-à-dire celle des résidents, résidentes non permanents ou résidents, résidentes temporaires, dont les nouveaux venus ont été de 150 000 au Québec pour les 12 derniers mois seulement, ce qui est énorme. Selon les derniers chiffres de Statistique Canada pour 2023, ils sont près de 471 000 en tout au Québec. Et okay. Ils se répartissent comme suit. C'est 200 500 travailleurs temporaires,
okay.
Ce qui est la majorité, c'est 43%. 146 800 demandeurs d'asile qui comptent pour 31%. De la totalité, et 102 700 étudiants, soit 22% des 471 000. Il y a un 21 000 restant dans la catégorie « autre » qui, j'imagine, doit contenir immigrants investisseurs et autres.
Oui, certains programmes spéciaux comme les Ukrainiens, par exemple.
Peut-être, c'est ça. Non seulement les travailleurs temporaires sont en plus grand nombre, mais c'est aussi cette catégorie-là qui a été connue. On le sait aussi, là, la plus grosse augmentation, soit près de 46%.
C'est une tendance lourde. Là,
oui, en fait, oui, c'est ça. Puis c'est la même chose aussi dans le reste du Canada, sauf que là, l'augmentation est encore plus forte. C'est 68%. La part des travailleurs non agricoles au programme des travailleurs étrangers temporaires, qui compte là 35 200 emplois, est en augmentation aussi. Puis dans plusieurs cas, pour des fonctions qui exigent des qualifications là, comme soudeur, cuisinier, boucher, mécanicien, etc., le nombre de travailleurs dans ce programme-là a quadruplé depuis 2018.
Quadruplé quand même. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de secteurs économiques différents, autres qu'agriculture, qui ont recours.
Exact. Mais là, on s'attend à ce que l'année 2023, ça explose vraiment parce que les postes approuvés par Ottawa et Québec, parce que c'est géré par les deux paliers, dans le cadre de ce programme-là, ont augmenté de 81% en 2023. Puis il y a des dossiers qui sont pas complétés, en 2022, pardon. Puis il y a des dossiers qui sont pas complétés, tu sais, qui sont pas encore aboutis, fait qu'ils vont tomber dans 2023. Fait que c'est sûr que ça va beaucoup augmenter. Puis l'autre programme, qui est celui de la mobilité internationale, qui lui relève à 100% du fédéral, lui comptait 73 500 détenteurs de permis en 2022, ce qui est beaucoup plus que celui des travailleurs temporaires, qui est c'est le double, en fait, parce que travailleur temporaire, il est à 35 000 à peu près. Et donc, dans 70 % des cas environ, ces travailleurs-là ont un permis de travail ouvert qui leur permet de changer d'employeur là, quand ils veulent, contrairement aux peut-être qui ont un permis de travail fermé. Le PMI aussi regroupe plusieurs régimes de travail, autant les mouvements de personnel en vertu d'ententes internationales, les bourses d'études, la mobilité dans des multinationales. Sa composante la plus importante, c'est le volet travail post-diplôme, qui regroupait 30 000 personnes en 2022, soit 41 % du total. C'est un mécanisme qui permet à un étudiant ou une étudiante étrangère de qui a obtenu son diplôme de rester travailler au Canada pour une durée égale à celle de ses études. Puis je termine très rapidement avec un dernier élément démographique. C'est la provenance des résidents résidentes non permanents au Québec. Les 10 principaux lieux sont la France.
Ben oui.
Très grande majorité qui dépasse là de loin à 20%. L'Inde suit à 11%. La Chine à 5,5%, Haïti 5%, Mexique 4,5%, puis après ça, avec Seco, là, à pas mal tous, plus ou moins 3%, c'est l'Algérie, la Colombie, les États-Unis, le Maroc et le Brésil.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas Guatemala, Salvador et tout.
Ça doit, ben, c'est peut-être dedans, mais ils ne sont pas partis dans le top 10.
D'accord. Donc, je serais curieux de voir les chiffres 2023, mais c'est assez long avant que ces chiffres-là soient dévoilés, donc probablement... dans le courant de 2024, on sera capable de confirmer si les tendances se maintiennent ou pas.
Exactement.
Merci beaucoup, Marie-Ève. On est toujours aux Apatrides. On va aller en musique avec Crabbe. On entendait le duo originaire de Valleyfield, Crabbe, que j'essaierai pas de décrire. Je sais pas si Mathieu, si vous risquez un adjectif.
Post.
Parfait. C'était la pièce politique Dracula 22 de son tout récent album au titre non moins étrange La visite du temple inné, co-réalisé avec Navet Confit sur étiquette Dure Vie. Ils sont aussi avec Motlin pour le booking, j'imagine, et l'album apparaît au palmarès local de Choc. Avant de te céder le micro, Mathieu, quelques nouvelles de l'extrême droite qui se porte, qui fait des sparages. Elle se porte bien en différents points du globe. Donc d'abord, je vous recommande une chronique sur pivot.québec. Le titre « Bienvenue au grand rassemblement international des fascistes ». C'est Martin Fogg qui nous parle d'un rassemblement international qui a eu lieu à Paris le 10 novembre dernier, la Worldwide Freedom Initiative. Tout le temps, la liberté avec la droite.
La démocratie, la liberté et puis la République.
Les grandes vertus cardinales à l'initiative de quelques organisations néo-autocrates. C'est moi qui ai écrit ça. La principale étant Republicans Overseas, qui voulait réunir l'intelligentsia fasciste de partout dans le monde, mais surtout des pays occidentaux, pour une série de conférences, d'ateliers dans le but de consolider ce réseau mondial des pires racailles qui soient, parmi lesquels on fait compter Éric Zemmour, Tamara Litch, là, Madame Convoi Liberté, des proches de Trump, des membres importants du Front National, etc., avec au menu toujours les mêmes peurs un peu irrationnel, le péril woke, queer, féministe, écologiste,
réfugiés,
antiraciste, qui menace nos belles valeurs dignes de papa a raison, et comment les combattre, ces menaces, en investissant le plus agressivement possible les différents sièges du pouvoir, à lire donc dans pivot.québec avec plusieurs liens vers d'autres sources plus approfondies. Une des figures marquantes dans l'actualité de l'extrême droite, c'est le chef du parti PVV, ou Parti de la Liberté, le très très islamophobe. Mathieu, comment on le prononce? Geert Wilders?
Non, Geert Wilders.
Geert Wilders aux Pays-Bas d'Europe, comme tu disais l'autre fois, qui a remporté le plus de sièges lors de la récente élection générale. Donc ça, Mathieu, quand t'en parlais, tu disais qu'il fallait qu'ils n'auront pas le choix de faire des alliances et c'est pas gagné parce que le vote est très divisé. Ce parti a eu 37 sièges sur 150. Ben oui. Déjà beaucoup de partis, dont ceux qui sont respectivement arrivés en deuxième, troisième et quatrième place en nombre de sièges, ont exprimé le fait qu'il n'est pas question même de juste s'asseoir pour négocier avec le PVV de M. Wilders. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les négociations sont loin d'arriver à terme. Donc, on s'attend pour les prochaines années à un gouvernement néerlandais peut-être pas inexistant, mais sûrement inopérant, comme on le voit en Belgique, en Italie, en Israël. Donc, je serais quand même surpris que les promesses du Parti de la Liberté puissent vraiment se réaliser. Par exemple, sortie de l'Union européenne, appelée Nexit, réforme de la Constitution, fermeture complète des frontières aux migrants, renvoi massif, interdiction des mosquées, des foulards et du Coran. Carrément. Mm-hmm. De toute façon, toutes ces positions extrêmes, ça constitue aussi des obstacles à la formation d'une alliance qui pourrait exercer le pouvoir. On nous laisse aussi entendre que si une coalition est finalement formée, on ne voudrait pas nécessairement de M. Wilders comme premier ministre parce qu'il est beaucoup trop violent dans ses positions et à l'international, surtout au niveau européen, il passe vraiment pas.
Il sera ministre de l'Intérieur, hein, quand même.
Il va sûrement occuper une certaine position, ouais. Mais comme porte-parole, c'est un peu la figure, là, le premier ministre. Là, ça fait 3 semaines que l'élection a eu lieu et comme je disais tantôt, les négociations n'avancent pas. Donc, pour l'instant, c'est Mark Rutte qui demeure premier ministre. Et à moins que je connaisse vraiment mal le système politique hollandais, une fois le nouveau gouvernement formé, si on y arrive, il n'y aura sûrement pas de changement législatif ou constitutionnel important. On va s'engueuler beaucoup au Parlement, on va gouverner par décret des décisions qui vont faire mal aux minorités, qui vont exacerber le climat de peur qui est déjà bien présent, mais qui seront contestés ou même cassés par les instances administratives et judiciaires au niveau à la fois national et européen. Sinon, elles vont être contestées par des partis civils. Donc, la seule chose dont je suis 100% certain, c'est que le Parlement à Amsterdam, pour les prochaines années, selon moi, ça va être un véritable cirque. Quelques mots rapidement sur la Suède, avant de céder le micro à Mathieu. La Suède qui nous inquiète, les extrémistes néo-nazis, à quoi les démocrates de Suède sont presque au pouvoir, en coalition avec le Parti conservateur un peu moins extrémiste. Mais tout de même, le premier ministre Ulf Kristersson a dû se positionner publiquement sur les déclarations du chef du principal parti en soutien à son gouvernement, qui déclarait qu'il faut passer une loi pour saisir les mosquées par expropriation probablement pour les détruire. Mm-hmm. Donc, c'est là que le débat public est rendu dans la Suède qu'on connaissait très progressiste et libérale, avec aujourd'hui un premier ministre qui doit réaffirmer que l'État suédois n'a pas l'intention de détruire des lieux de culte et que la liberté de religion est garantie par la Constitution. Donc, il y a quelque chose en Suède avec l'islam, les mouvements néo-nazis interdits ailleurs, mais tolérés, qui font des marches à Stockholm. On se rappelle les Corans brûlés qui avaient été timidement dénoncés, très timidement. Donc, voilà, une belle Suède en 2023-2024.
Mathieu, les démocrates de Suède, c'est vraiment de l'extrême droite, extrême droite. Là, c'est quelque chose. Là.
Appuyé par une base qui est tout autant appuyé par des partis en coalition aussi.
Ils n'ont pas de ministre au gouvernement parce qu'ils n'ont pas voulu les avoir, mais ils sont quand même dans la coalition majoritaire.
C'est ça, puis influencent l'agenda et le discours, forcément. Exactement. Donc, on change complètement
de sujet. Oui. Ben oui, écoute, enjeux autochtones, il y a tellement de choix. J'ai décidé de parler d'un truc un peu technique, mais qui risque d'avoir des répercussions dans les prochains années. Au début du mois de novembre, la Cour supérieure du Québec a ordonné l'arrêt des procédures contre 2 hommes de Kanawagé, près de Montréal, reconnus coupables en 2019 de diverses accusations en lien avec l'importation de tabac depuis les États-Unis, sans avoir payé les taxes nécessaires. La loi qui encadre le versement de ces taxes constitue une violation injustifiée des droits issus de traités et des droits ancestraux, a tranché le tribunal. Mm-hmm. Avec l'aide de témoins experts, les deux accusés, Derek White et Hunter Montour, ont évoqué 10 traités conclus entre 1664 et 1760 entre les Mohawks et la couronne britannique pour tenter de faire casser les procédures contre eux. Ils ont également présenté à la Cour une entente historique entre la Couronne et la nation Mohawk, appelée Covenant Chain ou Chaîne de l'Alliance. Okay. Cette dernière encadre les relations politiques, militaires, commerciales entre les Britanniques et la Confédération Haudenosaunee, un regroupement de six nations iroquoises, dont les Mohawks.
De la région autour du Saint-Laurent, des Grands Lacs.
Ouais, Québec-Ontario, exactement. Elle prévoit entre autres des mécanismes de règlement de différends entre les parties, y compris en matière d'échanges commerciaux. Bien que la Covenant Chain remonte à 1677, la Cour a décidé qu'elle n'est pas éteinte pour autant et qu'il s'agit bien, bel et bien d'un traité au sens de l'article 5 de la Constitution canadienne. La réglementation du commerce du tabac est un sujet de discorde connu entre la Couronne et les Mohawks depuis toujours. Pourtant, il n'y a eu aucune tentative de la part de la Couronne d'en discuter avant l'adoption de la loi sur l'accise, la fameuse loi là, qui taxe les différents produits.
Ouais, ouais.
Même si d'autres parties ont été consultées, comme l'industrie du tabac, a donc conclu la juge Sophie Bourque dans sa décision. Citant l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée au Canada, et certaines grandes commissions d'enquête, la Cour a également souligné le contexte changeant en matière de reconnaissance des droits et des droits des peuples autochtones pour rendre sa décision. Donc, le droit collectif, dans le cas présent, est celui de la nation Mohawk de poursuivre librement son développement économique, un droit qui s'applique par ailleurs à tous les peuples autochtones selon son jugement.
Elle veut dire... qu'il y a une perception différente ou il y a une évolution dans les lois...
Oui, ben la jurisprudence évolue il y a eu des commissions d'enquête qui ont recommandé des choses. Il y a eu aussi la déclaration qui a été adoptée qui donne l'espèce d'autonomie aux peuples autochtones. Donc, on revient plus aux traités originaux souvent dans ce cas-là.
OK, parfait.
Et un mois plus tard, quelle surprise, le procureur général du Québec et la Couronne contestent devant la Cour d'appel la décision. Le jugement initial dépasse largement le simple dossier criminel et c'est principalement ce que veulent faire invalider les appelants. Selon eux, la juge Bourque a commis des erreurs de principe de droit et de fait. Parmi ces erreurs figure la reconnaissance de la validité de la Covenant Chain, la chaîne d'alliance. Mm-hmm. La juge a commis une erreur de droit et de fait en concluant que la chaîne d'alliance est un traité de paix et d'amitié non éteint et qu'il comprend une procédure de règlement des conflits, argue les appelants. Selon l'avocat de messieurs White et Montour, il s'appelle Nathan Richard, je le cite, « Le Canada est arrivé à un moment crucial de son histoire juridique. La notion de réconciliation a été alimentée en parallèle avec la jurisprudence. Puis la jurisprudence n'a pas nécessairement pris en considération ou n'a jamais vraiment donné une interprétation à la réconciliation qui fait en sorte qu'elle est contraignante. » Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que les choses évoluent, que ça doit être c'est de plus en plus officiel, judiciarisé et contraignant, et que les lois n'ont pas changé en fonction de la jurisprudence et comme je te disais, les traités et les lois comme la reconnaissance de la Déclaration des Nations Unies.
Mais les traités, comme la Couronne le dit, qui seraient éteints, c'est une notion que j'ai jamais...
Ah, ben oui, il y a eu plein de cas devant la Cour suprême par rapport aux droits de pêche, droits de chasse. Ils disaient que c'était des vieux traités qui étaient plus applicables, que les nouvelles lois avaient... Bon, ça arrive souvent.
OK.
Fait que tout ça pour dire que le processus pourrait être très long. Ça c'est Cour d'appel, ça va être Cour suprême ensuite. Mais ça va être une affaire importante au niveau des droits reliés, entre autres, aux traités. Et relié aussi à l'évolution du droit, finalement, aussi, ouais. En tant que tel. Fait que je trouve ça intéressant, c'est technique, mais c'est quand on va réentendre parler là, un peu plus dans les prochains mois. Là.
Effectivement.
Sinon, autre sujet, Simon. Depuis plus de 3 ans, Richard Kistabich tente de faire accepter par l'État civil québécois son véritable nom de naissance qu'il a perdu enfant à son arrivée dans un pensionnat pour autochtones.
C'est un enjeu important, ça aussi.
Tout à fait. Né Ijnagozi, son prénom, qui signifie « celui qui raconte » en Anishinaabemowin, le membre de la Première Nation Abitibiwini, reproche aux institutions provinciales des procédures humiliantes. Monsieur Kistabich n'oubliera jamais son passage au pensionnat à Saint-Marc-de-Figuerie, près d'Amos, en Abitibi, dans les années 50. Je le cite, « Dès le premier jour de mon arrivée, on m'a dit que je m'appelais numéro 44 et que je devais répondre à chaque fois que l'on appelait le numéro 44. » C'est quelques années plus tard, toujours dans le même pensionnat, que le prénom de Richard viendra remplacer le 44. Je le cite encore.
Richard, qui est un prénom donné aussi par...
Exactement, par les religieux. On m'a ensuite imposé ce prénom qui n'a aucun lien avec qui je suis et l'idiome de mes ancêtres. Retrouver son nom d'origine est un geste de démonstration de réappropriation de sa langue, raconte celui qui est membre d'un groupe de travail de l'UNESCO sur la revitalisation et la promotion des langues autochtones. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il tente d'officialiser auprès du gouvernement du Québec un changement de nom qui lui donnera sa véritable identité. Mais voilà, il dit se buter à plusieurs freins et obstacles.
faut savoir que depuis juin 2022 au Québec, les anciens pensionnaires et leurs descendants peuvent reprendre leur nom traditionnel autochtone en faisant une démarche officielle auprès du directeur de l'État civil.
Okay.
La province répond ainsi à l'une des recommandations du rapport de la Commission de vérité et réconciliation.
Mais comme tu dis, il y a des obstacles.
Exactement. Mais pour lui, le fait que ce soit les victimes qui doivent monter un dossier et prouver leurs origines, alors que ce sont les institutions qui sont responsables du préjudice, ça demeure inacceptable pour lui.
Ben forcément.
Voilà. Donc, c'est une histoire intéressante dont on pourra reparler. Il me reste un peu de temps, Simon?
Oui, la régie nous fait signe que oui.
Oui, 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 il n'y a pas de problème, OK.
La régie est mariée.
Sinon, ben, autre sujet, mais toujours en jeu autochtone, le Congrès des peuples autochtones, CPA, a déposé une action en justice contre Service aux Autochtones Canada et contre le procureur général du pays. Il estime que le gouvernement fédéral fait preuve de discrimination à l'égard de nos populations autochtones. Des populations autochtones. Depuis l'annonce de la feuille de route du gouvernement fédéral afin d'implanter adéquatement la fameuse Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le CPA a publié plusieurs communiqués affichant son mécontentement. Le CPA s'identifie comme la voix nationale qui représente les intérêts des Métis, des Indiens inscrits et non inscrits et des Inuits du Sud vivant hors des réserves. Il se distingue de l'Assemblée des Premières Nations qui regroupe les chefs d'environ 600 communautés. D'ailleurs, ils sont très contestés par l'Assemblée des Premières Nations. C'est un autre groupe, un peu parallèle.
Ben, juste en incluant des non-inscrits, ça devient un petit peu n'importe
quoi. Exactement. Hors réserve, ben ça peut se discuter, mais t'as raison. Le CPA, donc, dénonce de ne pas avoir été consulté dans la rédaction de la feuille de route et même d'avoir été exclu intentionnellement. Ils ont même aussi demandé la démission du ministre responsable des relations couronne autochtone, mais il faut dire qu'ils n'ont pas été inclus justement parce qu'ils sont plus ou moins reconnus comme groupe représentatif des Autochtones. Je pensais finir avec moi aussi des chiffres, mais toujours pas drôle. T'es sur les taux d'homicide au Canada.
Ben oui, ben on t'écoute. Là.
Le taux d'homicide commis contre les victimes autochtones au Canada demeure disproportionnellement élevé. Selon Statistique Canada, 225 victimes d'homicide étaient des Autochtones en 2022, ce qui représente 27 % des victimes, une hausse de 3 % par rapport à l'année, donc 2021. Les Autochtones représentent environ 5 % de la population du Canada. Ce taux est six fois supérieur au taux d'homicide commis contre des non-Autochtones.
Ben oui,
et dans les 225 victimes, 58 étaient des femmes et 169 étaient des hommes. Il y a eu entre autres la tuerie en Saskatchewan qui a tué 15 personnes l'été dernier, qui est dans ces chiffres-là. Et je voulais terminer avec une suggestion d'un long article sur le site de Radio-Canada, les fameux récits numériques qui s'appelle « Si on continue, l'Orignal va devenir comme le caribou en voie de disparition ». Je lis le petit intro de trois lignes.
Oui,
il est au cœur de l'identité des Anishinaabés et on en voit de moins en moins. Dans la réserve faunique la Vérendrye, le moratoire qui interdit sa chasse a été prolongé d'une année pour 2023-2024. Ce gain de temps serait toutefois insuffisant selon les Autochtones qui assurent aussi que des chasseurs sévissent dans le parc malgré l'interdiction. Donc, c'est sur Radio-Canada, Orignal, Caribou, Disparition, Vérendrye, Anishinaabe, Chasse, pour retrouver l'article. C'est vraiment plein de photos, c'est vraiment intéressant aussi.
Ouais.
On en avait parlé il y a quelques années, mais où c'est rendu en 2023, puis c'est quoi l'avenir assez triste de l'Orignal au Québec?
Oui, souvent traité de la très belle photo. Donc, c'est des dossiers qui sont, oui, très pertinents, mais qui sont faciles à lire.
Oui, oui, puis beaucoup d'entrevues avec les gens, beaucoup de contenu.
C'est ça, très
donc,
humain.
Voilà mon tour d'horizon.
Merci. Un prochain tour d'horizon en 2024 pour
exact.
Des actualités autochtones. On va aller tout de suite en musique avec la pièce DVTR de DVTR. On entendait la pièce DVTR du duo montréalais électropunk DVTR, formé de J.C. Tellier, chanteur de l'ancien band Gasoline, et de Laurence G. Doe, qui est dans Le Couleur, duo donc qui vient de sortir un court album de 6 titres, qui ne s'appelle pas DVTR, mais tout simplement Bonjour, sur Lisbonne Lux Records et ce pays tout sous palmarès local de Choc actuellement. Lancement d'album mercredi prochain, 20 décembre, à l'ESCO. Avant de passer à l'ESCO Griffe, faut bien que je prononce ça. Avant de passer le micro à Marie-Ève qui nous a rejoint dans le studio principal, je vous parle de l'Irlande et de la route des Balkans à la frontière Serbie-Hongrie. Du côté serbe, où après une fusillade qui a tué 3 migrants et blessé un quatrième, le gouvernement serbe a décidé fin octobre, début novembre, de lancer une opération anti-migrants qui a mené à l'arrestation de 4500 d'entre eux et d'entre elles en 2 semaines. J'ai fait le calcul, ce sont donc 99,7% des arrêtés qui n'ont rien à voir avec la fusillade, puisque seulement 12 personnes sur les 4500 ont été officiellement interpellées et mises en examen en lien avec cette fusillade. Le ministre de l'Intérieur serbe, Bratislav Gazic, ne cache pas ses intentions et dit vouloir éliminer, c'est le terme qu'il utilise, tous les responsables des violences à la frontière vers la Hongrie. Alors, je sais pas s'il veut s'éliminer lui-même, ainsi que les membres de son gouvernement et leurs effectifs armés. Sinon, j'imagine qu'il a quelques conseillers autour de lui qui essaient tant bien que mal de lui rappeler que la Serbie reste un état de droit et que les exécutions sommaires ne sont pas autorisées. Ce ministre, M. Gazic, on ne le connaît pas beaucoup, il s'entendrait bien avec feu Mme Braverman. Il est digne, lui aussi, des officiels hongrois ou polonais, champion dans l'art de la déclaration fracassante et d'un des sports nationaux de presque tous les pays du monde, la diabolisation des migrants. Avec ma voix, enfin. Récemment, il déclarait comme ça que la mafia albanaise du Kosovo, tournez ça 4 fois dans votre tête, là, la mafia albanaise du Kosovo arme les migrants à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Question de mélanger encore un peu plus le brave peuple serbe, il a ajouté, je le cite, « Ce ne sont pas des migrants, ce sont des membres de gangs criminels. » Donc, parmi les 4500 personnes arrêtées, on sait que 3000 sont actuellement détenues. Les 1500 autres, les porte-parole du gouvernement serbe, n'ont donné aucune précision sur leur sort. Les ONG ne le savent pas non plus, donc c'est un peu inquiétant. On soupçonne la mise en place de renvois massifs vers les pays au sud de la Serbie, donc le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, mais on ne sait pas exactement à l'heure actuelle à quel stade en seraient les opérations de renvoi. Du côté hongrois, on annonce que la construction du mur avec la frontière serbe devrait être achevée incessamment, ce qui va compliquer la vie de beaucoup de gens en quête d'une vie meilleure, sans nécessairement diminuer leur motivation. Ce mur-là vient quand même verrouiller la route des Balkans, puisqu'il est en continuité directe avec le mur hongrois qui longe la frontière croate et qui, lui, date de 7 ou 8 ans. Petite statistique, la longueur totale des murs frontaliers en Europe a plus que sextuplé en 8 ans pour atteindre 2000 km. Un beau dossier à préparer pour vous présenter en 2024, les murs à travers le monde qui continuent d'être construits. Je vais céder immédiatement le micro
à Marie-Ève. Il restait du temps, c'est bon.
Ah oui, j'avais quelques des nouvelles plus fraîches de l'Irlande, donc oui, peut-être tu peux passer.
Ben oui, vas-y.
OK, je continue. L'Irlande qui a connu des émeutes parmi les plus importantes de son histoire récente à Dublin, des émeutes de personnes membres ou sympathisantes de groupes d'extrême droite qui ils sont pour la liberté. ça s'est produit le jeudi 23 novembre dans un quartier à forte population immigrante, plusieurs commerces souvent immigrants forcément qui ont été saccagés, voitures incendiées, résidents agressés. Tout ça en réaction à une attaque au couteau qui s'est produite la veille et qui a laissé dans des états graves 3 enfants et leur enseignante. L'extrême droite s'est déchaînée quand des rumeurs quant à l'origine soi-disant algérienne de l'auteur de l'attaque au couteau ont commencé à circuler, alors que tout ce que les autorités avaient divulgué, c'était que la personne d'intérêt était un homme d'environ 50 ans, rien de plus, sans mentionner d'origine ou de religion ou de couleur de peau. Mais voilà, les réseaux sociaux se sont emballés grâce à certains influenceurs nationalistes et très rapidement, on a assisté à ce que plusieurs décrivent comme une extraordinaire explosion de violence. Plusieurs émeutiers de type hooligan portaient le drapeau irlandais. Ils ont même poussé l'odieux jusqu'à détourner le slogan antiraciste Black Lives Matter en chantant Irish Lives Matter. Donc tout ça est très inquiétant, savoir qu'en quelques heures, sur la base de rumeurs propagées par des ultra-racistes auprès de leur important following, qui est prêt à croire n'importe quoi, rumeurs qui même à ce jour ne sont ni démenties ni confirmées, étant donné l'hospitalisation du suspect avant ses premières comparutions, donc son identité sera dévoilé lors des premières mises en examen. Donc, très inquiétant, disais-je, de savoir qu'à Dublin, en quelques heures, il peut s'organiser un troupeau de boneheads et de hooligans prêts à se mobiliser en un point précis pour aller incendier des quartiers immigrants sous une forme presque militaire, en meute bien docile, bien organisée. C'est une émeute qui s'inscrit dans un contexte où les incidents racistes augmentent rapidement en nombre et en intensité en Irlande, ce qui crée de l'inquiétude chez les personnes racisées, qu'elles soient nouvelles arrivantes ou non. Donc, Marie-Ève, finalement, j'en arrive à toi. Donc, avant de nous amener en Afrique, on reste un peu en Europe.
Ben, c'est parallèle, en fait, parce que mes deux nouvelles sont liées. Puis, ben, vous allez voir que le racisme du petit peuple rejoint celui des institutions. Je parle, bien sûr, de l'Union européenne.
Ben, ça s'interalimente.
Qui souhaite notamment revoir la législation actuelle pour alourdir les sanctions pénales contre les passeurs et combattre ce qu'elle qualifie de trafic de migrants. Ah. C'est la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, qui en a fait l'annonce à la fin novembre lors d'une conférence internationale qui réunissait des dizaines de ministres de l'Intérieur européens, mais africains aussi, ainsi que des représentants d'Europol, d'Eurojust ou encore de Frontex. Faut savoir que la veille, la junte militaire au pouvoir au Niger a abrogé la loi qui criminalise le trafic de migrants dans le pays. Adoptée en 2015, la mesure interdisait d'assurer, afin d'en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent du Niger. Les personnes soupçonnées de participer à ce trafic-là étaient passibles de peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans et d'amende de 1 à 5 millions de francs CFA, c'est-à-dire entre 1 500 et 7 600 euros.
OK.
Faut dire que l'organisation de ce trafic-là au Niger était très structurée. Les migrants originaires, pour la plupart d'Afrique de l'Ouest, pénétraient au Niger par ses frontières sud pour se rendre à la gare centrale d'Agadez, au centre du pays, d'où partaient les convois, pour rejoindre la Libye généralement. Le monde diplomatique raconte que chaque lundi, il y avait plusieurs dizaines de véhicules, parfois jusqu'à 200 véhicules qui partaient vers le désert et transportaient là, à la fois bétail et passagers. Ils étaient escortés par l'armée jusqu'à la frontière libyenne.
OK, c'est louche ça quand même.
Ouais, et donc là, on comprend que la loi de 2015 avait stoppé net là, ces activités-là. Et donc là, les migrants qui étaient privés de route officielle ont été poussés à prendre d'autres chemins d'exil plus confidentiels, mais évidemment aussi plus dangereux.
C'est toujours le cas, c'est toujours comme ça.
Exactement. Donc, depuis plusieurs années, là, le Niger, c'est vraiment une étape clé pour les migrants subsahariens. Ses frontières de plus de 5 500 kilomètres sont partagées avec 6 États voisins. Et donc, ça place le pays au centre de la plupart des routes migratoires de la région à destination de l'Europe. Le Niger accueille aussi les exilés ayant fui la Libye ou expulsé d'Algérie, je vais y revenir. De janvier à septembre 2023, 52 600 migrants sont entrés au Niger d'après l'OIM et 64 500 en sont sortis. Donc, ça, il y a beaucoup de mouvements. Et depuis 2016, c'est plus de 4 millions de migrants qui ont traversé le pays. Mais là, depuis le 26 juillet dernier, là, c'est-à-dire depuis la prise au pouvoir par la junte militaire, ben, la situation c'est un peu compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire pour ces milliers d'exilés-là en transit qui sont bloqués dans le pays en fait à cause de la fermeture des frontières décidée au lendemain du putsch.
Ils doivent être beaucoup dans la ville que tu nommais tantôt.
Agadez, oui.
Ouais, probablement.
Puis là, ben c'est ça. Puis en plus, ben là, les services auxquels ils avaient accès auparavant, ne fonctionne plus, ou en tout cas plus comme avant. D'autant plus que les expulsions régulières et massives depuis l'Algérie ont pas cessé entre le 26 juillet et le 18 octobre dernier. Il y a au moins 5000 personnes qui ont été expulsées d'Algérie et amenées à la frontière avec le Niger en plein désert. Depuis le 1er janvier, le collectif Alarm Phone Sahara en comptait au total près de 20 000. Certains sont déposés directement dans le centre de l'OIM d'Assamaka, qui est à la frontière, là, par des convois dits officiels qui sont conduits par les autorités algériennes. Mais il y en a d'autres qui doivent effectuer le trajet à pied, trajet de 15 km qui sépare cette localité-là du lieu dit qu'on appelle le point zéro, qui est en plein désert, où chaque année, ben, des milliers de migrants sont abandonnés par les mêmes autorités algériennes, sans eau, ni nourriture, ni outils d'orientation. Et selon une enquête de Border Forensics publiée en mai 2023, les exilés ont aucune chance de survie. Ces dernières années, le Sahara est d'ailleurs devenu un tombeau à ciel ouvert. C'était le surnom de la Méditerranée à une certaine époque. C'est rendu le Sahara.
Il y a plusieurs tombeaux à ciel ouvert.
Bref, pour revenir à l'Union européenne, l'abrogation...
Ben oui, son rôle là, dans tout ça. Là,
ben, l'abrogation de la loi 2015 au Niger fait certainement pas son affaire parce que, d'autant que son appui au régime nigérien renversé le 26 juillet reposait justement sur la volonté affichée par les autorités de lutter contre le flux de migrants cherchant à rejoindre l'Europe à partir de la Libye. La conférence de la Commission européenne intervient donc dans ce contexte-là et la nouvelle directive européenne prévoit d'alourdir les sanctions pénales concernant le délit d'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier, qui est l'accusation la plus souvent utilisée par les tribunaux pour condamner les passeurs. L'incitation publique à entrer dans l'Union européenne sans autorisation va aussi devenir une infraction pénale.
T'appelles ça comme incitation?
Incitation publique à entrer dans l'Union européenne, je vous explique. Ça, c'est dans le but de s'adapter aux nouvelles techniques que les passeurs utilisent, qui sont plus au goût du jour, c'est-à-dire des techniques numériques. Par exemple, de la publicité en ligne pour les services de contrebande, les itinéraires et les prix, la falsification de documents, l'utilisation de crypto-monnaies, d'argent numérique ou d'autres formes là, de paiement non officiel. Okay. Puis là, ben, la principale infraction là, de facilitation à l'entrée, elle serait punie d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins 3 ans, tandis que les infractions aggravées là, en bande organisée ou avec violence, par exemple, ben, seraient passibles d'au moins 10 ans d'emprisonnement. Mmh. Celles qui ont causé la mort seraient sanctionnables de 15 ans contre 8 dans la législation actuelle.
Tu vois, on voit qu'ils se soucient quand même du bien-être.
Ouais, ben c'est ça, je vais y revenir justement. Ouais, c'est ça. La nouvelle directive, là, évidemment, n'est pas adoptée. Il va falloir qu'elle soit dans les prochains mois. Mais en visant les passeurs, c'est quand même aux personnes migrantes elles-mêmes que l'US attaque. D'abord, on a vu plusieurs cas de migrants accusés de trafic simplement pour avoir conduit un bateau dans lequel ils étaient eux-mêmes passagers, par exemple.
On en a parlé à quelques reprises. Là.
Et certes, les passeurs abusent plus souvent qu'autrement de personnes migrantes vulnérables et désespérées.
Ben oui.
Mais quand on sait que plus de 90% des migrants irréguliers arrivés dans l'Union européenne ont été aidés par des passeurs, on peut se demander si les personnes migrantes risquent pas moins leur vie quand elles sont prises en charge justement par des passeurs qui connaissent les routes migratoires maritimes ou terrestres, les dangers qu'elles représentent et qui leur fournissent quand même un certain matériel de base. Je peux pas m'empêcher de souligner l'hypocrisie de cette déclaration d'Ylva Johansson. Au début du mois, une petite fille est morte à proximité de l'île de Lampedusa après que son bateau s'est retrouvé bloqué dans la mer agitée. Cette petite fille s'est retrouvée sur le bateau à cause de passeurs qui connaissaient parfaitement les risques et pourtant ils l'ont fait pour l'argent. Eh bien, je lui réponds, ce sont pas les passeurs qui causent l'immigration. Faire disparaître les passeurs ne fera pas disparaître les personnes migrantes. Ce sont avant tout les politiques migratoires répressives et les frontières de l'UE et de ses pays membres et non membres qui tuent.
Ça, c'est toi qui réponds ça ou c'est Amnesty International? OK, ben bonne réponse. Elle a rien répondu par la suite. Là.
La madame était bouchée, hein?
Ben oui. Ouais. Ben tu vois, elle a pas répliqué jusqu'à maintenant. Écoute, on fait des blagues, mais c'est pas drôle.
Nope.
Donc, ben merci beaucoup, Marie-Ève, pour ce tour d'horizon. Entre plusieurs tombeaux à ciel ouvert, là, le Sahara, la Méditerranée. Donc, pour digérer tout ça, on va aller en musique immédiatement avec O.C.'s.
Yeah.
On entendait aussi ce groupe vétéran de rock garage psychédélique de San Francisco qui change de nom presque à chaque album. La pièce d'ouverture de leur tout dernier porte le titre énigmatique de Intercepted Message. C'est sorti en août dernier. La pièce qu'on a entendue s'appelle Stunner et le vidéoclip qui l'accompagne est vraiment sympathique. Allez voir ça. Pour nos amis de Vancouver ou de Victoria qui nous écoutent, sachez que OC sera en spectacle à Portland, Oregon et à Seattle en septembre 2024.
Puis à Montréal en 2025.
À Montréal, il n'y avait rien, même à très moyen long terme.
Non, non, c'est ça.
Rien au Canada, je crois. Maintenant, des nouvelles d'Amira El-Gawabi, représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie au niveau fédéral. Elle accordait récemment une première entrevue en français et en gros, elle disait que depuis le 7 octobre, donc depuis la réactivation du conflit israélo-palestinien, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, son travail s'est passablement alourdi. Elle donne pour exemple que dès le 9 octobre, deux jours après les attaques du Hamas, les crimes haineux avaient augmenté de 500% en 48 heures, autant des crimes antisémites qu'islamophobes. Elle-même reconnaît avoir reçu toutes sortes d'insultes et de menaces, dont des menaces de mort, malgré la réserve qu'elle avait décidé de garder. Merci. Elle met en cause tout ce qui est pas nuancé, que ça provienne de personnalités publiques ou politiques, de médias traditionnels ou de réseaux sociaux. Elle constate énormément de haine, de tension, d'agitation et fait remarquer que beaucoup de publications en ligne, de déclarations au micro sont volontairement incendiaires. Alors que le contexte actuel devrait au contraire nous inciter au maximum de modération, de mesure, à choisir ses mots et aussi évidemment ne pas transmettre des informations qui ne sont pas sérieusement vérifiées. Donc voilà pour la mise en garde de Mme Amira El-Gawabi qui est musulmane d'origine égyptienne. Elle n'est pas nécessairement dans la situation la plus confortable pour démontrer la plus grande neutralité. Mais dans son discours et son attitude toujours très posée, elle y arrive bien. Je salue bien bas son calme. Et surtout, elle arrive à appliquer à elle-même ce qu'elle prêche pour les autres, ce qui ne doit pas nécessairement être facile. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas comment elle fait, donc je la félicite. Quelques mots supplémentaires avant d'entendre Mathieu pour des nouvelles internationales. Un récent rapport de Freedom House, un groupe de pression états-unien qui fait la promotion de la liberté de presse, rapport sur la situation actuelle des journalistes critiques envers les régimes autoritaires. Le rapport met l'accent sur la répression transnationale, donc sur les journalistes expatriés qui continuent à critiquer les régimes d'où ils proviennent, mais qui sont traqués là où ils habitent maintenant par ces régimes qui mettent leurs tentacules partout dans le monde pour les faire taire par toutes sortes de moyens pratiquement toujours criminels. Le moyen ultime étant l'assassinat. Et dans les dernières années, on se rappelle évidemment le meurtre de Jamal Khashoggi, au consulat saoudien d'Istanbul en 2018, ou encore tout récemment, en septembre, au Canada, la mort d'un leader sikh qui n'était pas journaliste, mais c'est le même principe. Le rapport de Freedom House recense de manière loin d'être exhaustive 112 incidents dans les 10 dernières années et constate une augmentation importante de la fréquence de ces incidents, qui ne sont pas juste des meurtres, il peut y avoir des agressions physiques qui blessent sans nécessairement tuer. Il peut y avoir du harcèlement, des kidnappings, des atteintes à la réputation, des menaces envers des membres de la famille. 36 régimes mis en cause, les plus souvent cités sont la Chine, la Russie, le Bélarus, l'Iran, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et le Cambodge. Le rapport conclut en incitant les États de droit à prendre plus au sérieux le phénomène de la répression transnationale, à envisager des sanctions et des mesures beaucoup plus musclées que ce qui se fait actuellement. Là, je vous résume ça très vite. C'est un rapport de 20 pages que vous pouvez consulter sur freedomhouse.org/report/transnational repression, où on trouve aussi le portrait de plusieurs journalistes. C'est très intéressant et très bien fait. Mathieu, je te passe maintenant la parole. Merci. On s'en va
au Bangladesh.
Au Bangladesh, peut-être un peu en Nouvelle-Zélande.
Oui, à la fin. Bangladesh, ça brasse solide. Je cite Amnesty International pour commencer. Les États membres des Nations Unies doivent tirer parti du prochain examen périodique universel du Bangladesh pour demander aux autorités de ce pays de rendre des comptes sur des violations flagrantes des droits humains et la détérioration rapide de la situation sur place à l'approche des élections générales. Le dossier communiqué à l'ONU fait état de préoccupations dans plusieurs domaines, liberté d'expression, d'association ou de réunion pacifique et autres questions relatives aux droits humains, tels que les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les droits des minorités, la peine de mort et les droits des réfugiés. Entre autres exemples, la nouvelle loi sur la cybersécurité de 2023 conserve les mêmes caractéristiques draconiennes et répressives de l'ancienne loi sur la sécurité numérique.
plusieurs disparitions forcées relevant de pratiques bien établies, suivies d'exécutions extrajudiciaires par le bataillon d'action rapide, le RAB.
C'est officiel, cette...
Le bataillon de l'armée, oui. Okay. Qui aurait tué au moins 456 personnes sous couvert d'une campagne de lutte contre la drogue en 2018. Ça nous rappelle un autre pays, hein. Ça s'appelle les Philippines. La police continue de plus en plus à réprimer les manifestations pacifiques portant sur diverses problématiques citoyennes. Il y a des blessés, il y a des morts. Entre janvier 2018 et décembre 2022, on a recensé au moins 13 exécutions et 912 condamnations à mort. En décembre 2021, au moins 2000 personnes étaient sous le coup d'une condamnation à mort pour différents délits. Depuis 2019, les minorités hindoues ont été la cible d'au moins 5 agressions planifiées de grande ampleur collective, prenant généralement la forme de pillages ciblés suivis de destructions violentes et de morts.
Donc des genres de lynchages.
Exactement, en réponse à des rumeurs là, sur les réseaux sociaux. Ça nous dit quelque chose, hein?
En Inde aussi, on voit ça.
Ben oui, exactement. 25 ans après la signature de l'accord de paix par le gouvernement bangladais et l'association de solidarité populaire des Chittagong Hill Tracks, que je connais pas, la région est toujours militarisée en violation de l'accord. Et pour finir, la liste d'amnistie, la réduction des financements et l'effondrement de la sécurité dans les camps de réfugiés Rohingyas provoquent des traumatismes psychologiques et physiques supplémentaires pour la communauté Rohingya au Bangladesh et de plus en plus le retour des exils vers l'Indonésie actuellement par bateau. Plus précisément, à moins d'un mois des législatives, le rythme de la justice s'accélère. 112 militants du Parti nationaliste bangladais, le BNP, ont été condamnés en une seule journée le 20 novembre et des dizaines d'autres ces dernières semaines. Ils encourent entre 18 mois et 10 ans de prison pour des actes de vandalisme, d'incendie criminel et entrave à la police. Une vingtaine d'entre eux sont des cadres importants du parti, dont le secrétaire général. Leurs avocats affirment que certains faits n'ont pas été prouvés, dépendant surtout des témoignages de policiers, et ils vont faire appel, évidemment. La chef du BNP, le parti dont je parle, et ancienne première ministre, Khaleda Zia, purge déjà une peine de 17 ans d'emprisonnement pour corruption.
Tout va bien au Bangladesh.
Attends, c'est pas fini. Le pays d'Asie du Sud de quelques 170 millions d'habitants doit tenir le 7 janvier des élections législatives où la première ministre Sheikh Hasina de la Ligue Awami espère décrocher un quatrième mandat consécutif. Selon Human Rights Watch, près de 10 000 personnes ont été arrêtées depuis fin octobre pour des raisons politiques.
Ben, elle fait bien ça, un quatrième mandat, elle
le
mérite.
Ben oui. Selon le parti d'opposition, le BNP, la moitié environ de ses 5 millions de membres font l'objet de poursuites pour des raisons politiques. Au moins 16 personnes, dont deux policiers, ont été tuées et plus de 5 500 blessés dans des manifestations depuis toujours la fin octobre. La police accuse l'opposition d'avoir incendié près de 300 véhicules, pour la plupart des bus, lors de grèves nationales et de blocages de transport depuis toujours la fin octobre. Le BNP a indiqué qu'au moins 16 600 de ses membres avaient été arrêtés depuis cette période.
Les chiffres que tu donnes depuis tantôt sont hallucinants.
Hallucinants. Dont plusieurs dirigeants, notamment le chef de facto du parti, Monsieur Alamgir. Je cite un porte-parole du parti d'opposition. Le Bangladesh n'a pas connu une répression aussi massive contre l'opposition dans toute son histoire. Des milliers de membres du BNP se cachent désormais. Craignant d'être arrêtés et torturés, ils ont fui leur domicile. Ils ne passent pas plus de deux nuits au même endroit. Certains passent leur nuit dans des chans de riz ou de canne à sucre. Et en plus, ben, la première ministre du Bangladesh, Madame Hasina, a refusé toute nouvelle hausse du salaire minimum des ouvriers du textile qui continuent d'exiger qu'il soit triplé après plus de 10 jours de manifestations et de heurts avec la police. Le comité du salaire minimum du secteur textile a augmenté de 56% le salaire mensuel de base des 4 millions d'ouvriers du secteur, le portant à 12 500 takas, qui est 104 euros. Okay. Un montant jugé ridicule et aussitôt rejeté par les syndicats. Les ouvriers du textile demandent un triplement du salaire minimum. Les ouvriers souffrent durement de l'inflation qui a atteint plus de 10% en octobre et de la dépréciation d'environ 30% du taka par rapport au dollar américain depuis le début de l'année. Dans ce cadre-là, la police a arrêté plus de 100 manifestants, dont plusieurs dirigeants syndicaux accusés de violence et de vandalisme. Au moins 3 ouvriers sont morts et 6 policiers ont été blessés. Plus de 70 usines ont été saccagées, selon la police, en un peu plus de 10 jours. Même les États-Unis ont condamné la criminalisation des activités légitimes des ouvriers et des syndicats du textile.
Ouais, mais bon, on sait.
Les quelques 3500 usines textiles du Bangladesh, employant majoritairement des femmes, produisent 85% des exportations annuelles du pays, on parle de 50 milliards d'euros, et fournissent de nombreuses grandes marques mondiales comme Levi's, Zara ou encore H&M.
Ben oui, si on regarde ce qu'on porte aujourd'hui...
Parle pour toi.
Ah, c'est tellement équitable.
Basée aux Pays-Bas, l'Organisation de défense des droits des ouvriers du textile, la Clean Clothes Campaign, a dénoncé le nouveau salaire de base qu'elle a qualifié de salaire de misère. Si les marques soutenaient le montant de 23 000 takas réclamés par les syndicats et s'engageaient à absorber le coût de l'augmentation des salaires, les ouvriers n'auraient pas besoin de descendre manifester dans la rue. Fait que voilà pour ce qui se passe au Bangladesh. Puis en 30 secondes, Simon, pour la Nouvelle-Zélande, si ça te va.
Ben oui, ça
45 secondes. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la Nouvelle-Zélande la semaine passée pour protester contre la politique du gouvernement conservateur nouvellement élu à l'égard de la population maori. Des manifestations soutenues par le parti maori Te Pāti Māori ont notamment été organisées à Auckland et à Wellington, constituant un premier test pour le nouveau premier ministre Christopher Luxon. Les dirigeants maori accusent la coalition conservatrice de politique raciste, menaçant notamment un traité qui protège les droits des peuples autochtones en Nouvelle-Zélande. Ils s'opposent au projet de changement de nom de certains départements qui passeraient du maori à des noms anglais et de la fermeture de l'autorité sanitaire maori, le Takay Ora. Le traité de Wantadji, signé en 1840 entre la couronne britannique et des chefs maoris, garantit les droits des autochtones qui représentent aujourd'hui 17% de la population. Et en terminant, des élus maoris ont contrevenu au protocole lors de l'ouverture de la session parlementaire à Wellington. Ils ont prêté serment d'allégeance à leurs descendants et aux documents de la fondation du pays avant de prêter serment au roi Charles III. Le parti Te Pāti Māori estime que cette pratique rappelle le pouvoir colonialiste du Parlement envers les peuples autochtones et souhaite l'abolir. Donc, ça brasse aussi en Nouvelle-Zélande, mais ça commence avec un nouveau gouvernement. Donc, vive ben Charles III!
Ben oui, c'est le souverain pontife de tous ces pays-là. Donc, ben écoute, c'est déjà quasiment la fin de l'émission. Avant de vous dire officiellement au revoir, un mini agenda. Tout d'abord, lundi 18 décembre, lundi prochain, c'est la Journée internationale des migrants. J'en profite donc pour vous parler de la conférence internationale du RATMAC, le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, qui aura lieu à Montréal les 17 et 18 décembre au Centre Saint-Pierre, 1212 Panet, près du métro Beaudry. Plusieurs conférences, ateliers avec des thèmes qui vont graviter autour de l'augmentation du recours à la main-d'œuvre migrante et temporaire dans un nombre croissant de secteurs économiques au Québec, au Canada, partout ailleurs. Pour information et inscription, on consulte ratmac.org. Sinon, il y a le Centre des travailleurs et des travailleuses immigrantes et Solidarité sans frontières qui nous invite à envoyer des lettres par la poste à Justin Trudeau, à son bureau de circonscription de Montréal, pour lui rappeler sa promesse qui date de 2021. Toujours non tenu, qui était de mettre en place un programme de régularisation pour toutes les personnes sans papier et un statut de résident permanent pour les étudiants et les travailleurs migrants. On nous invite à faire ça immédiatement ou en début de semaine prochaine. L'adresse postale est le 1100 Crémazie Est, bureau 220, Montréal-Québec, H2P2X2. Après ce mini-agenda, une mini-bonne nouvelle avant de quitter. Après une saga judiciaire de 5 ans en Italie contre l'ONG espagnole Open Arms et sa chef de mission et un capitaine de bateau de sauvetage, qui en passant sont des bénévoles. Donc, acquittement complet annoncé par la cour d'appel de la Sicile. Alors, dénouement positif, c'est certain, mais procédures qui auront quand même fait très mal aux humanitaires impliqués. Et si on place la décision dans un contexte plus large de criminalisation des navires de sauvetage en Méditerranée, ça reste une bonne nouvelle et ça risque d'être de plus en plus difficile pour des procureurs ou des politiciens populistes d'accuser les ONG en mer de trafic humain ou de faire partie des réseaux criminels de passeurs. Ils vont probablement trouver d'autres façons.
L'Union européenne veille là-dessus pour en trouver d'autres.
Oui, oui, il y a sûrement des bataillons d'avocats qui sont en train de patenter des mises en accusation. En tout cas, on va espérer que ça va leur compliquer la tâche. Dans le cas précis du Open Arms, c'était assez particulier. Après que les autorités italiennes leur avaient signalé le lieu d'un naufrage, on leur a dit de se tasser pour laisser la place aux gardes-côtes libyens, ce que le capitaine de l'Open Arms avait refusé de faire pour ne pas être complice d'un refoulement massif en mer vers la Libye. Donc, c'est la fin de cet épisode des Apatrides Anonymes. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup, Mathieu.
Le 101e?
101e, ben oui, mon Dieu. C'est le prochain déjà? Va être le 102, si je compte bien.
Merci, Simon, pour ton animation malgré le rhume.
Ben oui, ça s'est gâté en fin d'émission. Mais 2024 sera une année de toutes les voies.
La grande
oui,
santé.
Tu nous reviendras en force.
Toi aussi, Marie-Ève. Nos coordonnées, apatridesanonymes.info. Le courriel à patridesanonymes@resist.ca. On a une page FB, une page évidemment dans choc.ca où on peut écouter nos cent autres balados. On peut aussi nous entendre sur Radio Victoria sur la côte ouest. On se retrouve donc en 2024, le 11 ou le 18 janvier.
Ça va être le 11, oui.
Ah, t'as décidé ça?
Non, c'est parce qu'on est aux deux semaines, puis il faut garder la mer de choc.
C'est bon, donc le 11 janvier, on se retrouve avec à l'animation, je crois, Marie-Ève.
Oui.
Émission spéciale, peut-être?
Ben oui, on va essayer de faire quelque chose. On aura une réunion de production, peut-être un bilan 2023, prédiction 2024, peut-être des quiz. On verra tout ça. On se laisse en musique avec une autre pièce qui figure au palmarès local de choc. C'est Sun Entire, et non Empire. Donc Sun Entire, un trio bjorkiesque de Montréal, de leur album Fit to Break. Donc merci de nous écouter, portez-vous bien et surtout bonne année 2024.
Bonne soirée.
Bonne soirée.